VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En RDC, au moins 7 morts, tel est le bilan des combats à l'arme lourde ce jeudi entre des militaires congolais et des miliciens à Beni, province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Lors des affrontements près de l'état-major de la police, 7 assaillants ont été tués. Et un huitième grièvement blessé a déclaré à l'AFP le colonel Safari Kazingoufou, chef de la police de Beni. Selon le colonel Kazingoufou, les assaillants ont essayé sans succès de libérer des détenus de l'état-major, de l'auditorat militaire ainsi que des détenus de la prison de femmes de Beni. Le 11 juin, 900 prisonniers s'étaient évadés du pénitencier de la ville après une attaque menée par des inconnus armés. Les autorités militaires affirment qu'il y avait parmi les assaillants qui ont donné l'assaut aujourd'hui des ex-détenus ayant pris le large après l'attaque contre la prison. RCA, difficulté dans la mise en œuvre de l'accord politique signé lundi à Rome par des représentants de Bangui, des Nations Unies et de 14 groupes armés centrafricains sous l'égide de la communauté de Saint-Lédidjo. Cet accord prévoit un cessez-le-feu immédiat sur l'ensemble du territoire national. Or, on assiste depuis le week-end dernier à un regain de violence à Bria, dans le centre-est du pays. Martin Zigele, président du MLPC, le Mouvement pour la libération du peuple centrafricain, appelle au respect de la parole donnée. On l'écoute.
Nous pensons que les responsables des différents groupes armés doivent prendre leurs responsabilités parce que leurs représentants ont signé cet accord-là qui a des dispositions vraiment très pratiques. Cet accord de 8 pages comporte des dispositions très pratiques qui demandent leur opérationnalisation. Donc, nous pensons que le gouvernement doit faire sa part de choses. Les groupes armés doivent également donner leur engagement, traduire leur engagement en actes, notamment par la cessation des hostilités, par l'ouverture du territoire et par le retour de l'administration dans les zones qu'ils occupent actuellement, ces groupes armés. Donc, je pense qu'il faut encourager ce mouvement. Et comme je le dis toujours, vaut mieux avoir un accord et obtenir des avancées, même si elles ne sont pas spectaculaires, puisque vous faites allusion à la poursuite des combats sur le terrain, mais il y a une direction dans laquelle tout le monde s'est inscrit et il faut que cette direction soit maintenue, amplifiée, soutenue. Et nous verrons à l'œuvre, il y aura des obstacles certainement qui vont surgir, mais il faut avoir le principe que dès le moment où la volonté d'aller de l'avant existe, nous souhaitons que cette volonté soit partagée et que les résultats soient visibles, notamment par la cessation des hostilités.
Martin Zigele, président du MLPC, le Mouvement de libération du peuple centrafricain, l'un des signataires de l'accord de Rome. Au Cameroun, un nouvel attentat suicide attribué au groupe islamiste nigérian Boko Haram a fait 8 morts et 3 blessés hier à Kolofata, dans la région de l'extrême nord du pays, près de la frontière avec le Nigeria. Les deux jeunes garçons, auteurs de l'attaque, ont péri, ainsi que 6 civils camerounais. Dans cet attentat suicide perpétré aux environs de 17h30, heure à laquelle les fidèles musulmans procédaient à la prière de rupture du jeûne du Ramadan à Kolofata. Depuis Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap nous en dit plus.
Visiblement, les kamikazes voulaient faire un grand nombre de victimes, à en croire Babila Arua, préfet du Mayo Sava, joint au téléphone.
Les deux kamikazes sont arrivés à vélo. Et ils sont venus s'introduire là où il y avait les rassemblements des gens. Deux kamikazes qui ont fait exploser derrière la maison du premier ministre Amadouali.
Kolofata enregistre son 3e attentat kamikaze depuis le début du mois de juin 2017. Y aurait-il alors péril dans le rôle de comité de vigilance? Le préfet du Mayo Sava croit le contraire.
Les comités de vigilance font leur travail. Les leaders de cette secte font croire aux adeptes que quand on pose l'acte, on va directement au paradis en cette période de jeûne de Ramadan. Voilà un peu des raisons qui justifient la recrudescence du phénomène, particulièrement dans la zone de Kolofata.
3 attentats kamikazes sur 3 sites différents, le Cameroun est encore de plein pied dans la guerre contre Boko Haram. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burkina Faso, les autorités, le HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, conjuguent leurs efforts pour un meilleur suivi des réfugiés installés dans le pays. Et ils ont lancé conjointement un programme d'enrôlement biométrique de quelque 33 000 personnes pour mieux suivre leur mouvement. Au reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
L'opération d'enrôlement biométrique vise principalement à mettre à jour la base de données des réfugiés vivant sur le territoire burkinabé. Un travail de pointe pour un enrôlement de qualité et des résultats efficaces, fait remarquer Mawa Bamba, adjointe au représentant du HCR à Ouagadougou.
Nous sommes effectivement très heureux que nous avons pu lancer cette initiative. C'est quelque chose qui est arrivé récemment au HCR et le Burkina Faso est un des pays précurseurs de la mise en œuvre du BIMS. C'est un système, comme vous avez pu le constater, d'enregistrement biométrique. Le système se base sur la capture de l'iris et aussi des empreintes. Du coup, c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir faire des fraudes, de pouvoir faire des doublons, de pouvoir faire des mouvements secondaires entre les pays qui accueillent les réfugiés maliens et les autres réfugiés.
L'opération va aussi permettre le renforcement de la surveillance des déplacements et autres mouvements des réfugiés, dont une initiative doublement bénéfique pour le Burkina Faso, se félicite Issa Joseph Paré, secrétaire permanent de la Commission nationale en charge des réfugiés.
Et donc cette opération est une opération conjointe qui permet au HCR et au Burkina d'avoir des données vraiment fiables sur les réfugiés. Cette opération nous rassure vraiment et nous aide à mieux gérer les réfugiés.
Les grands centres urbains de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, sans oublier les camps de réfugiés de Goudougo, Adori et Mentawa-Djibo, accueillent l'enrôlement. Pour les bénéficiaires, le soulagement est grand, lâche leur représentant, aussi Emmanuel Bokodi.
Nous sommes fiers de vivre au Burkina Faso parce que le Burkinabé a ouvert le champ d'action que les réfugiés puissent vivre sur ce territoire. Ça me fait aujourd'hui 15 ans que je vis au Burkina Faso. Et ça donne une opportunité aux réfugiés de s'intégrer. Donc l'enrôlement est une palette juridique et sociale. Nous sommes intégrés, nous vivons comme les Burkinabés.
Ce travail de suivi permet de mettre en lumière des leaders. C'est le cas de Berthe Ndiapou, une réfugiée centrafricaine.
C'est la première fois que j'ai une attestation officielle. Sinon, j'avais seulement l'acquis de droit. Ça nous a vraiment raffermi. Parce qu'avec l'appui de l'UNHCR, nous avons réussi même à monter un bon projet, le Youth Initiative Fund 2017, lancé par l'UNHCR. Et nous sommes sur le point de la mise en œuvre.
L'enrôlement biométrique des réfugiés va durer 2 mois environ. Il va permettre aux autorités, mais aussi au HCR, de disposer de données fiables afin de mieux gérer les réfugiés, mais également de pouvoir suivre, superviser leurs mouvements et parer à toute menace contre la sécurité nationale. Issa Napo, Ouagadougou, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, la plus haute juridiction du pays a autorisé ce jeudi un vote de défiance à bulletin secret au Parlement contre le président Jacob Zuma, fragilisé depuis des mois par une série de scandales politico-financiers. La requête sollicitant ce vote à bulletin secret avait été déposée par l'opposition sud-africaine. Actualité américaine maintenant, les États-Unis disent regretter l'annulation par la Russie d'une rencontre bilatérale prévue cette semaine à Saint-Pétersbourg en Russie. Décision prise en représailles après l'adoption par Washington de nouvelles sanctions contre Moscou. Les précisions de Rosine Munezero.
Estimant que les nouvelles mesures américaines résultaient de la russophobie de Washington, Moscou a décidé de ne plus organiser cette réunion de haut niveau à laquelle devraient prendre part Tom Shannon, haut responsable du département d'État, et Sergei Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères. Ce dernier a prévenu dans un communiqué que la mesure américaine ne restera pas sans réaction, y compris sans mesure de rétorsion de la part de son pays. Nous regrettons que la Russie ait renoncé à une opportunité de discuter des obstacles bilatéraux qui entravent les relations États-Unis-Russie, a déclaré de son côté la porte-parole du département d'État. À l'origine de la vive réaction des autorités, l'annonce mardi par le département du Trésor américain d'une nouvelle série de sanctions contre la Russie et les séparatistes ukrainiens. Celle-ci vise spécifiquement 38 entités et individus liés au conflit ukrainien et à la question de la Crimée, notamment côté russe. Le ministre adjoint de l'économie, Sergueï Nazarov, et le député Alexander Babakov.
Et pour terminer, en Afghanistan, au moins 20 personnes tuées et 50 blessées ce jeudi suite à l'explosion d'une voiture piégée devant une banque de Lashkar Gah, capitale de la province d'Helmand, dans le sud du pays.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.